Bonjour à toutes et à tous, dans un instant, je reçois Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF. C'est dans l'anglais des chiffres, c'est tous les dimanches, vous le savez, sur LCI en direct de 17h à 18h. Patron de la SNCF, entreprise de transport éminente, au cœur du modèle français, qui a évidemment été bousculé par cette épidémie. Comment, pourquoi? Et puis cette question, et si le virus avait changé le transport en commun pour toujours? C'est dans un instant, c'est sur LCI, c'est en direct. Avec Jean-Pierre Farandou, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'anglais des chiffres, tous les dimanches sur LCI en direct. De 17h à 18h, nous recevons un grand témoin de l'économie, de la vie des affaires. Et cette semaine, c'est Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF. Bienvenue à vous.
Merci, bonjour.
Jean-Pierre Farandou, vous êtes donc le patron de la SNCF. Vous avez effectué toute votre carrière au sein de cette entreprise publique ferroviaire française. Vous avez dirigé des filiales de cette entreprise, notamment Keolis et puis Thalys, bien sûr, qui s'occupe de liaisons internationales. Vous avez été aussi chef de projet sur le lancement du TGV Paris-Lille. Autant dire que les galons, vous les avez. Alors, vous êtes en place depuis novembre 2019. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, j'allais dire, juste avant que le carrosse ne redevienne citrouille, juste avant que l'épidémie ne perturbe tout, et particulièrement le monde du transport, et du transport ferroviaire en particulier. Qu'est-ce que c'est de diriger une entreprise publique comme ça, par temps de Covid?
Quand vous avez une grande crise comme celle-là, d'abord il faut respecter les consignes du gouvernement. On était en crise sanitaire et la SNCF devait être exemplaire. Et on a suivi toutes les phases de confinement, de déconfinement. Oui. On a été présent au grand rendez-vous des départs d'été, qu'on a plutôt réussi. On a réussi à assurer 85% de la fréquentation. L'automne est arrivé avec une nouvelle vague de confinement, adaptée en novembre. Puis à nouveau, les départs pour les vacances de Noël, où là, on a fait 70% de la fréquentation. À chaque fois, on s'est réadapté. Hein, on a su se remettre en question dans nos offres de transport. Les cheminots ont répondu présents. Souvenez-vous qu'au mois de mars, on n'avait pas encore les masques. Il y avait 100 000 cheminots qui quittaient leur foyer tous les jours pour aller travailler. Il y avait des trains qui roulaient, des trains
de
marchandises.
C'est vrai. Contrairement à la Poste, vous n'avez pas fermé, ou pas complètement en tout cas. Vous avez maintenu la lumière allumée.
Ah oui, tout le temps. Oui. Tout le temps. Et d'ailleurs, je vois l'engagement formidable des cheminots. Vous savez, le service public chez nous, ça veut dire quelque chose. L'engagement pour les Français, l'engagement pour les territoires, c'est ça qui anime cette corporation. Et les cheminots étaient très fiers de répondre présent. On se souvient aussi du symbole des TGV médicalisés. On a fait rouler 10 TGV pour transporter des malades. Ouais. Plus récemment, on a été très fiers d'inventer un TER cargo. Là, c'est dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. La route était coupée, mais il n'y a que le train qui passait pour amener de l'eau, pour amener des vivres. Voilà. Et moi, ça me donne beaucoup de confiance dans cette entreprise. Une entreprise qui est capable de se mobiliser au service des Français, au service des territoires, avec le sens de l'engagement. Ça donne de la force, hein, et de la confiance quand le rebond sera là, quand la crise sanitaire sera derrière nous. La SNCF aura démontré toute son utilité.
Bon. Quand vous êtes arrivé, c'était quand même la grève totale. L'engagement au service du public, c'est sûr. Vous avez donné quelques exemples spectaculaires. Mais il y a aussi des moments où le public ne comprend pas et voit les cheminots s'enferrer dans des mouvements parfois très durs qui les pénalisent dans leur vie quotidienne de façon très importante.
Oui, quand je suis arrivé, il y avait d'abord beaucoup de tensions sociales dans l'entreprise. On peut le comprendre. Il y avait des grosses réformes structurelles qui s'étaient passées. Mmh. Les syndicats étaient vent debout contre ces réformes, d'où une tension sociale extrême. Moi, ce que j'ai fait, j'ai d'abord établi le dialogue. Voilà, le respect mutuel. Chacun est à sa place, la direction,
le
syndicat. C'était très tendu. En tout cas, le respect s'était abîmé. Hein, ces tensions très, 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 très grandes, très fortes, avait quand même sacrément dégradé l'envie de travailler ensemble, j'allais dire. Hein. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour les syndicats parce qu'une grande entreprise comme la SNCF ne peut pas fonctionner sans les syndicats. Et même en termes de transformation, et on doit transformer cette grande entreprise publique, on a besoin du corps social, on a besoin des corps intermédiaires. Donc pour moi, c'était une condition absolument nécessaire de rétablir le dialogue. On l'a fait en quelques semaines. Et puis est arrivée la grève contre la réforme des retraites, qui n'est pas une grève purement SNCF.
Non.
Voilà. Bon, la SNCF a été assez présente dans ce conflit, puisque le régime spécial de retraite était en question. On sait que c'est un marqueur très fort pour les cheminots, donc il y a eu une réaction sociale forte. On s'est quand même parlé, et on a plutôt réussi d'abord à faire rouler des trains, quasiment un train sur deux pendant toute la durée du conflit. On a réussi à faire partir les Français pour les vacances de Noël 2019, hein, si vous vous en souvenez. Donc on a à peu près tenu le contrat passé avec les Français. Et quand la grève s'est arrêtée, là encore, on ne sait pas comment c'était pas abîmé dans des luttes internes trop fortes, voilà, une certaine convergence a pu se faire. Le Covid est arrivé, à nouveau beaucoup de dialogue. Quand on s'est rendu compte que la crise sanitaire était très forte, on a mis en place une conférence sanitaire pour faire le point tous les jours. J'ai tenu à ce que les syndicats participent directement à cette conférence sanitaire pour qu'ils aient la même information que nous.
Au total, sur la grève des retraites, enfin plutôt la réforme des retraites, c'était pas aberrant de la part du gouvernement de normaliser les conditions de départ à la retraite des cheminots qui méritaient d'être particulières à une époque qui était particulière mais qui révolue, non ?
Ouais, là-dessus, moi, bien sûr, je n'ai pas à me prononcer, si vous voulez, sur le fond de la réforme. Hein, donc, cette réforme, elle était souhaitée par le gouvernement. Elle faisait partie du programme de campagne du président élu. Donc, il n'y avait pas de surprise là-dessus. Bon, il y avait ce sujet du régime spécial. On n'est pas les seuls. Il y a, je crois, une quarantaine d'entreprises qui ont un régime spécial.
43, je crois. 43 régimes spéciaux en France.
Oui. Nous aussi. Bon, nous aussi. Bon, voilà. Donc, il y a bien ce sujet de transition. Ce régime spécial, vous savez, c'est le contrat invisible. Il fait partie de ce contrat que les cheminots plus anciens pensaient avoir passé avec la SNCF.
Oui.
Donc l'idée de le remettre en question, forcément, n'est pas évidente. Et dans la tête des cheminots, il représente un peu un salaire différé. C'est-à-dire qu'on accepte des salaires, somme toute, modestes tout au long de sa carrière, parce qu'au fond, on sait qu'on aura une bonne retraite quand la retraite arrivera. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis un âge assez tôt. Hein. On part assez tôt parce qu'on peut considérer que certains métiers sont pénibles. Et c'est vrai, les 3-8, conduire les trains, se lever en pleine nuit, etc. S'il n'y a pas que des métiers simples à exercer. Voilà, il y a des contraintes. Donc, toucher à ça, c'était forcément toucher à quelque chose de très sensible. Le gouvernement, et il nous avait d'ailleurs demandé de travailler avec eux, on avait mis en place des systèmes de transition. Et d'ailleurs, deux syndicats sur quatre les avaient quasiment approuvés. Je pense à l'UNSA et la CFDT. La CGT, Sudrail, eux, étaient vent debout contre ce projet pour des raisons plus de principe quasiment. Voilà, on en était là et on sait ce qu'il est advenu de cette réforme au début de l'année 2020.
La réforme de la SNCF elle-même, donc le changement d'organisation de statut de l'entreprise, pour le coup, c'est passé. Ça vous permet de travailler mieux aujourd'hui et d'envisager les choses, je dirais, comme une entreprise normale. C'est pas forcément infamant. Et d'ailleurs, de ce point de vue, la SNCF n'est pas vraiment normale parce qu'elle occupe une place particulière dans l'économie française.
Moi, je pense que cette réforme, elle a fait de nous ce qu'on doit être. C'est-à-dire qu'une entreprise publique moderne. Une entreprise publique, parce que quand même notre vocation, c'est d'être au service des Français. En fait, ce que les Français demandent de nous, c'est qu'on fasse tourner en France le système ferroviaire avec la sécurité, la régularité, que ça coûte pas trop cher aux contribuables. C'est ça qui est la demande principale, le pacte que nous passons avec le pays.
Vous n'êtes pas vraiment rassurant. Ça coûte quand même un peu.
Ça coûte un peu, mais de moins en moins. Hein, et d'ailleurs, si on tire cette ficelle économique, hein, puisque vous la tirez au moment où je présente tout l'intérêt de cette réforme, on le sait, l'État a repris 35 milliards d'euros de dette, de la dette SNCF Réseau. C'est pas rien, c'est énorme. Cette dette s'était accumulée. D'où elle vient, cette dette ? C'est des emprunts que la SNCF avait dû passer pour financer la construction des lignes à grande vitesse en France. D'autres pays n'avaient pas fait ce choix. L'Allemagne, par exemple, c'est l'État qui avait repris cette dette il y a bien longtemps. En France, on avait laissé la SNCF s'endetter pour le bien de tous. Si ce n'est que cette dette était trop importante, on n'arrivait pas à la rembourser, la situation était intenable. Donc l'État, en 2018, reprend la dette, mais nous demande de nous inscrire dans une trajectoire de retour à l'équilibre. Et moi, j'ai pas négocié, j'étais pas là quand la loi s'est passée. Par contre, dès ma nomination, bien évidemment, j'ai endossé cette obligation. Et je mets un point d'honneur, d'ailleurs, malgré la crise, à respecter les jalons. Donc le jalon principal, c'est que l'année prochaine, en 2022, tout le groupe SNCF dégage un cash flow libre supérieur ou égal à zéro. Voilà, qu'on ne coûte plus d'argent en cash au pays. C'est l'engagement que nous avons pris. Et à ce jour, il est toujours possible de le tenir. Voilà, c'est important. Malgré la crise...
Si pas épidémie, quand même.
Alors voilà, il ne faut pas que l'épidémie dure 2 ou 3 ans. Ouais. Si l'hypothèse que nous prenons tous, c'est qu'à l'automne, l'épidémie soit derrière nous, si le TGV repart fort, et on fera tout pour qu'il reparte fort, je pense qu'il est possible, effectivement, que nous tenions cet engagement et qu'en 2022, nous soyons à l'équilibre pour l'ensemble du groupe SNCF.
Diriger une entreprise pour laquelle les Français ont le sentiment qu'elle leur appartient, c'est pas compliqué ?
Non, parce que vous savez, c'est le sens de mon engagement. Moi, vous l'avez rappelé, je suis rentré il y a longtemps à la SNCF.
Vous êtes un cheminot depuis de la première heure, en quelque
sorte.
Oui,
et c'est pas un hasard. Quand vous rentrez à la SNCF, c'est que le service public, ça vous parle. L'intérêt général pour les Français, ça vous parle. Voilà, donc pour moi, ce sentiment qu'on appartient aux Français, on appartient à l'État, ça c'est sûr, à 100%. C'est pas un sentiment d'appartenance avec les Français, c'est un sentiment de respecter la confiance qu'ils nous donnent, et puis le fait aussi qu'on a de l'argent public qui arrive dans cette entreprise. Et moi, je le dis toujours, dès qu'un client paye un billet de train, il y a 20 ou 30 euros en billet de train, ça devient des euros publics. Et que ces euros publics doivent être aussi bien gérés, voire mieux que si c'était des euros privés, parce que justement, nous gérons de l'argent public est rare, et nous devons montrer que nous gérons bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, on a réussi à faire un plan d'économie incroyable. En quelques semaines, on a défini un plan de 2,5 milliards d'euros d'économie en cash que nous avons exécuté. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 6 milliards de chiffre d'affaires en moins ne se transforment que en 3 milliards de pertes, parce qu'au passage, il y a un effort d'économie incroyable qui nous fait rattraper presque la moitié de l'impact sur le chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça la SNCF, c'est aussi une entreprise qui respecte l'argent public qu'elle gère pour les Français.
Vous justement, vous m'ôtez de la question de la bouche cette semaine, vous présentiez vos résultats 2020, donc 3 milliards de pertes. Alors, vous avez expliqué justement que ça correspondait à une perte de chiffre d'affaires deux fois plus importante, c'est dire effectivement l'ampleur des efforts qui ont été consentis. Mais vous pouvez tenir combien de temps comme ça, avec ce rythme de disparition du chiffre d'affaires?
Alors, c'est pas facile, bien évidemment. Alors, ce qui nous encourage aussi dans le fait de dire qu'on tient bien, c'est la différence entre le premier semestre de 2020 et le second. Le premier semestre, souvenez-vous, quand on a présenté nos résultats semestriels, nous avions perdu 2,5 milliards.
Ouais.
Ben à la fin, on n'a pas fait x2. On a perdu que 500 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais au second semestre, on a perdu que 500 millions parce que ce programme d'économie a donné son plein effet, parce que le trafic quand même, la fréquentation s'est mieux tenue au second semestre qu'au premier, et on voit qu'on n'a qu'une perte de 500 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas faire beaucoup d'efforts pour être à zéro. Voilà, c'est ça que je retiens. 500 millions, ça se rattrape. Donc, même en situation de crise sanitaire, on n'est pas très loin de l'équilibre. Quand vous êtes à l'équilibre, vous voyez venir. Voilà. Donc, je le redis, moi, je me mets dans ma tête qu'à l'automne, les choses vont repartir. Et notre ambition, c'est que le rebond soit vigoureux pour le ferroviaire, en voyageurs comme en marchandises d'ailleurs. Mais s'il fallait que la crise se prolonge, je pense que nous pourrions être dans une situation où nous serions à zéro et que nous ne coûterions pas trop d'argent aux contribuables français.
Est-ce que vous allez pouvoir tenir, là, aujourd'hui, sans nouvelle aide de l'État?
Alors c'est comme ça qu'on l'a prévu. Alors on a eu une première aide, hein. C'est vrai, oui. Qu'en 2020 on a eu le plan de relance, on a bénéficié de France Relance à hauteur de 4,7 milliards de recapitalisation des SNCF Réseau pour poursuivre l'effort entrepris de régénération du réseau. Ça veut dire quoi? Changer les rails, changer le ballast, changer les caténaires, hein, les composantes physiques du réseau. Je le rappelle, en France, l'âge moyen du réseau est de 37 ans, alors que l'âge moyen du réseau en Allemagne n'est que de 17 ans.
Ça veut dire qu'on n'a pas investi assez.
Exactement. C'est-à-dire tout l'argent, on l'a mis dans les lignes à grande vitesse, c'est ce qu'on évoquait, quitte ouais. D'ailleurs à faire une dette énorme pour la SNCF. Pendant ce temps-là, on ne mettait pas assez d'argent dans le réseau classique. Un an ou deux, ça ne se voit pas, mais sur 10 ou 20 ans, ça se voit. On a un réseau classique qui est trop ancien. Et depuis 2017-2018, l'État nous a demandé de reprendre un effort de rénovation du réseau. On le fait. Et c'est là où le plan de relance est intervenu. Si le plan de relance n'était pas intervenu, comme nous manquions de ressources, on n'aurait pas pu poursuivre cet effort, ça aurait été fort dommage. Grâce à ce plan de relance, on va pouvoir continuer ce travail de fond, ce travail ingrat qui ne se voit pas et qui est fondamental, de régénérer les réseaux. Il n'y a pas de service de qualité pour les Français si le réseau tombe en panne tout le temps. Voilà, donc il faut poursuivre cet effort.
Dans le même temps, les économies que vous faites, c'est quand même des investissements en moins.
Alors, des investissements en moins, pas tellement. Sur le réseau, grâce au plan de relance, on va poursuivre tous les investissements. On a en quelque sorte sacralisé les investissements sur le réseau et sur les gares d'ailleurs aussi. On a un programme d'accessibilité dans les gares. On investit pas loin d'un milliard d'euros sur les gares françaises tous les ans. Donc c'est pas négligeable. C'est vrai qu'on a un peu ajusté les investissements à cause des problèmes de cash, pour essayer de maîtriser la dette, d'éviter qu'elle dérape de trop. C'est sur le matériel roulant, certains investissements sur les ateliers, certains investissements informatiques. Là, effectivement, on a gagné à peu près 1,5 milliard d'économies d'investissement en 2020 pour amortir l'impact sur le cash.
Alors, pour le citoyen contribuable, je dirais, il voit les entreprises publiques qui sont quand même souvent en déficit. Alors, il s'agit d'entreprises particulières, vous l'avez dit, la SNCF ou même Air France, qui est aussi très impactée par la crise Covid. Mais on se pose la question... L'État est-il vraiment un bon actionnaire?
Moi, je ne me plains pas du tout de l'État actionnaire. D'ailleurs, vous avez parlé de la réforme de 2018, c'était ça l'esprit. Vous avez dit faire de la SNCF une entreprise comme une autre.
Normaliser un peu.
Normaliser. Ouais. Elle était beaucoup trop endettée. C'était plus raisonnable. Et les ratios de solvabilité n'étaient pas du tout respectés. Bon, l'État reprend 35 millions d'euros, ce qui est énorme. Nous, on se met sur une ligne, nous le management, on se met sur une ligne de retour à zéro et puis de dégager des cash flows positifs derrière. Et donc, petit à petit même, de réduire la dette, c'est ça qui est le plan. Et je pense qu'on va y arriver. Et l'idée, c'est qu'en 2023, on ait un ratio dette nette sur MOP tout à fait comparable à nos comparables, d'autres entreprises de notre secteur comparable à nous, avec un ratio autour de 6.
Voilà. Donc, 6, oui, c'est-à-dire?
C'est la dette nette divisée par la MOP. Il vous faut 6 ans
divisé
de marge.
Par quoi, pardon?
La dette divisée par votre marge opérationnelle.
D'accord.
Donc, un ratio de 6, c'est-à-dire, en gros, il vous faut 6 ans de marge pour rembourser,
la dette.
Ça, c'est un ratio tout à fait soutenable. On est en train de réaliser cette trajectoire. Et à ce moment-là, c'est-à-dire la structure économique de l'entreprise sera saine. Ça va nous prendre quelques années. Peut-être qu'à cause du Covid, ça va être décalé d'un an, deux maximum. Mais au fond, nous sommes en train d'exécuter à la SNCF une trajectoire de retour à une situation saine qu'on n'aura presque jamais connue à la SNCF. C'est ça que permet la réforme de 2018. Et c'est ça que nous employons à faire, toute l'équipe de management de la SNCF, avec l'État actionnaire qui nous aide, notamment sur le plan de relance. C'est un État... il nous aide aussi sur le fret. Hein, faut pas oublier dans le plan de relance.
On y viendra dans un instant, bien sûr. Donc
voilà. Moi, je trouve que la relation avec l'État est saine. Elle est de proximité. Elle est de confiance. On a traversé ensemble la crise des retraites. On traverse ensemble la crise sanitaire. Je crois, quelque part, même, ça a ressoudé le lien entre la direction de la SNCF et l'ensemble du gouvernement.
Aujourd'hui, si on évalue le trafic de cette semaine, par exemple, quand on le compare à une période normale, enfin celle d'avant la crise, ça représente quelle proportion ?
Sur le TGV, on a à peu près à 50% de trafic en moins.
Par rapport à l'année normale.
Ouais, une année normale. Ouais. Sur les trains de la vie quotidienne, on est à 40% de trafic en moins.
Ça, c'est
l'effet
trains,
du télétravail.
Les TER.
Les TER et les transiliens en Ile-de-France.
Les transiliens.
Voilà. Beaucoup l'effet du télétravail, hein, c'est sûr, qui a réduit considérablement tout ce qui est domicile travail.
On y viendra, bien sûr, dans un
instant. Le fret est à moins 20% à peu près. Ça, c'est un peu l'effet crise économique. Hein. Même si le fret a bien travaillé tout au long de l'année 2020, il y a quand même un petit talon qui a disparu parce que certains de nos grands clients ont eu des difficultés. L'automobile, la sidérurgie, hein, par exemple. Réseau continue à travailler tout à fait normalement. Les chantiers de rénovation se font tout à fait normalement. Et le plan de relance sécurise 2 ans quasiment hein, de rénovation du réseau. Et Gare et Connexion, c'est à peu près pareil. Voilà, donc les gestionnaires d'infrastructures fonctionnent normalement. L'activité de transport est impactée entre 50 et 20%. Et il faut parler de nos filiales. La grande filiale Keolis de transport public est à peu près aussi à moins 15, moins 20%. Par contre, Geodis, le grand logisticien français mondial, est à plus 4,5% d'activité. Parce que Geodis a eu un second semestre extraordinaire. Geodis a su tirer parti du rebond économique en Asie et aux États-Unis. Et Geodis aussi, c'est le logisticien du dernier kilomètre. Et comme il y a beaucoup de ventes sur Amazon,
les livraisons,
etc. Exactement, les livraisons ont explosé. Donc Geodis a vraiment tiré son épingle du jeu avec une croissance, même en 2020, de plus 4. C'est pour ça qu'au grand total, le groupe SNCF en 2020, ce n'est que moins 14% de chiffre d'affaires.
Et vous espérez arriver à zéro, c'est-à-dire avoir rattrapé le niveau d'avant quand ?
2023, je pense qu'il nous faudra...
Ah, pas avant.
Ouais. Bah, je pense que 2022, on va bien rebondir. Je pense qu'en 2023, je pense qu'on aura récupéré le niveau d'avant. Voilà, à peu près.
Ça veut dire que 2022 est encore une année de perte pour la SNCF ?
C'est une année de redressement. Ah, de perte, non. J'espère pas de perte. Mais vous m'avez posé la question du retour
oui,
au niveau.
C'est pas tout
voilà.
à fait la même chose.
Je pense que pour moi, 2021, si tout va bien, ça sera... Il y aura encore une petite perte, mais moindre qu'en 2020. Et 2022, on passera en positif. Je vous dis, c'est zéro. L'objectif, c'est zéro. Et donc, 2023, du cash flow positif à partir de 2023. Et le retour à toute l'activité qu'on avait connue, on va dire, la dernière année, à peu près 2019, en 2023. Certaines de nos filiales, Geodis, même faisant beaucoup mieux.
Ça veut dire qu'on n'a pas connu de période comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement.
Enfin, en termes de chiffres d'affaires.
Mais regardez le TGV, il a 40 ans. On a fêté ces jours-ci le record.
On verra un sujet tout à l'heure, le record.
C'est 40 ans de croissance continue. Hein, le TGV, c'est 40 ans de croissance continue, avec parfois de sacrés coups de boost quand on lançait une nouvelle ligne, par exemple la grande vitesse. Là, pour la première fois, moins 50%. Voilà, un coup d'arrêt comme ça, on ne l'avait jamais connu. C'est intense et c'est long. Hein, c'est les deux caractéristiques. On le voit d'ailleurs pour l'économie du pays. L'intensité de la crise et sa durée font de cette crise sanitaire une crise complètement inédite. Hein. Chacun apprend, chacun se débrouille, chacun est inventif. Hein, et surtout, et à la SNCF, on le fait, on se prépare hein, pour rebondir le plus vite possible, le plus fort possible, quand la crise sanitaire sera terminée.
Alors, les professionnels du voyage et du tourisme militent tous ou presque pour la mise en place de ce fameux passeport vaccinal. Un document personnel qui attesterait que vous avez été bien vacciné et donc que vous n'êtes pas contagieux et donc que vous pouvez voyager sans problème. C'est Sophie Chevalereau qui nous explique comment cela pourrait fonctionner.
Partir enfin en vacances librement, passer l'été au soleil au-delà des frontières. Accepteriez-vous de retrouver ce plaisir ? À condition de devoir présenter un certificat vaccinal.
Moi, je serais plutôt pour retrouver la vie d'avant et pour pouvoir accéder à certains lieux.
Si c'est possible de prendre un rendez-vous, ce ne serait pas logique d'imposer un passeport alors qu'on ne peut même pas se faire vacciner. Quoi.
Que vous puissiez partir, elle ne demande que ça. Cette voyagiste ne vend plus rien, alors chaque potentielle solution retient son attention.
Si pour nous, c'est un gage comme quoi les gens vont plus voyager et les pays les recevoir, on est à 100% pour.
Même espoir dans cet hôtel au cœur de Paris. D'ordinaire, 75% de la clientèle est étrangère. La directrice compte beaucoup sur ce passeport.
En espérant qu'au mois d'avril, ça va revenir, mais ça dépend encore une fois du passeport vaccinal. Mais bon, je croise les doigts.
La vie d'avant, elle vient de reprendre en Israël. Un concert en plein air, pour ceux qui ont ce petit bout de papier, la certification d'avoir reçu les deux doses du vaccin.
C'est un plaisir de sortir pour aller à un concert, et c'est une joie d'être en plein air.
Des Israéliens munis de leur passeport vaccinal vont pouvoir profiter de ces paysages grecs. Le pays leur ouvre ses portes et espère accueillir d'autres visiteurs étrangers cet été. De son côté, Londres évoque aussi l'adoption du certificat vaccinal. La campagne de vaccination est très bien avancée, à tel point que les Anglais pensent déjà à vacances d'été. La compagnie aérienne EasyJet enregistre une augmentation de 337% des réservations au départ du Royaume-Uni.
C'est plus des destinations de vacances, c'est l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ce genre de destinations. Ça confirme que les gens veulent pouvoir se projeter, veulent pouvoir voyager à nouveau.
L'Europe reste divisée sur la question d'un certificat sanitaire unique. Aujourd'hui, seuls 4% des Européens ont reçu au moins une dose du vaccin.
C'est une bonne idée, ce passeport vaccinal. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un tel certificat qui permettrait de voyager plus facilement ?
Écoutez, moi, je suis favorable à tout ce qui peut permettre de relancer la mobilité. Moi, je suis une entreprise de transport, une entreprise de mobilité. Donc, tout ce qui peut permettre de faire en sorte que les gens bougent et quand ils bougent, choisissent le train, parce qu'il est accessible, parce qu'il est écologique, ça me va bien. Et par exemple, je suis très favorable au tourisme en France. Moi, j'aime beaucoup l'idée que les Français redécouvrent la France. Peut-être, au lieu de partir dans des destinations lointaines, redécouvrent les charmes de l'ensemble de nos provinces et y aillent en train.
Voilà. Donc, c'est une bonne idée.
Ce qui est une bonne idée, c'est créer les conditions pour que les gens puissent se déplacer. Voilà. Être mobile, retrouver une vie normale, en tourisme, en affaires, et bien sûr prendre le train. Voilà. Donc
donnerait une sécurité aux transporteurs, justement, de pouvoir contrôler, au fond, l'état sanitaire de ces voyageurs?
Aujourd'hui, prendre le train, c'est sûr. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus. Les consignes gouvernementales sont très claires. C'est la combinaison de trois facteurs. D'abord, le port du masque. Ouais. Et franchement, c'est respecté. Quelques exceptions, oui. Mais franchement, nos personnels interviennent et le voyageur qui aurait oublié de mettre son masque le met. Dès que vous rentrez dans la gare, d'ailleurs, dans la gare, dans les trains, c'est très bien respecté. C'est aussi la désinfection. Alors ça, c'est ce qu'on a appris de la crise. On nettoie beaucoup mieux nos trains, beaucoup plus à fond, avec des produits virucides beaucoup plus costauds qu'on le faisait avant. Et ça va continuer. C'est devenu un standard. Donc tous les jours, désinfection complète de chaque train, avec des produits qui durent plusieurs jours. Donc on est vraiment sûr de l'effet de ces produits. Plus des reprises en cours de voyage, on désinfecte les portes, les poignées, etc. Et le troisième élément, on a découvert aussi, c'est la ventilation. En fait, un train, c'est comme chez vous, tout l'air est reventilé toutes les 3 minutes, toutes les 6 minutes, c'est comme si chez vous, vous ouvriez les fenêtres toutes les 3 minutes et les 6 minutes. La combinaison de ces facteurs fait que prendre le train, c'est sûr, on le voit, les enquêtes scientifiques l'ont démontré, il n'y a aucun cluster dans les trains. Donc déjà, dès aujourd'hui, prendre le train, c'est tout à fait sûr. Non, ce qui nous embête davantage, ce sont les contraintes sur la mobilité. Voilà, c'est ça peut-être que un passeport vaccinal ou ce type de document permettrait de retrouver davantage de mobilité. C'est ça qui est important.
Les confinements, etc.
C'est sûr. Voilà, oui, c'est un confinement, là, c'est mécanique. La mobilité devient interdite ou elle est très rigoureusement encadrée. Donc, c'est pas tellement prendre le train, ça c'est sûr. C'est le nombre de gens qui peuvent le faire. Voilà, c'est ça qui est important. Plus il y aura de gens libres de prendre le train, plus ça nous permettra de retrouver les volumes dont on a besoin pour relancer l'activité et rebondir. C'est exactement le souhait que nous formulons.
Alors, la crise du Covid, elle a eu un impact sur l'entreprise, vous nous l'avez dit, sur les comptes évidemment, mais elle a aussi peut-être changé le transport en commun. C'est Johan Engen qui nous explique cela.
Pour reconquérir ses clients du quotidien, la SNCF lance l'abonnement télétravail, moins cher. Exemple, si vous vous rendez à Bordeaux deux fois par semaine depuis cette gare, ce sera 74 € par mois, contre 90 actuellement.
Je pense que ça pourrait être une bonne idée de baisser les prix des abonnements.
C'est quelque chose sur lequel il faut que je me renseigne parce que ça peut être intéressant.
C'est bien d'être à l'écoute des voyageurs et des usagers.
Une nouvelle offre nécessaire, car en 2020, la compagnie ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine a perdu 30 millions d'euros sur ses abonnements régionaux.
On a une perte de clientèle qui est de l'ordre de 50% de nos abonnés mensuels. Donc on cherche des solutions pour les reconquérir et pour continuer quand même à les fidéliser.
certains analystes expliquent que le transport en commun ne sera plus, après la crise, ce qu'il était avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Qu'est-ce qui est durable, au-delà de l'impact, je dirais, conjoncturel, sur les volumes que vous évoquiez à l'instant?
Oui, comme je le disais, je pense que tout ce qui est privé loisir, ça va revenir. Parce que là-dessus, on voit que le déplacement physique, il faut le faire. Pour aller voir votre famille, vous voulez la voir vraiment. Ouais. Si vous voulez passer un week-end à Saint-Jean-de-Luz, vous y allez vraiment. Donc, le privé loisir, ça reviendra. Et peut-être un peu plus, parce que les gens auront envie, à mon avis, de se déplacer.
Oui, il y a un ressort qui va se détendre.
Exactement. Par contre, effectivement, alors vous avez dans le travail ou les affaires, c'est vrai que le télétravail a pris beaucoup d'importance. On voit qu'il y a des... Et je pense que les entreprises, nous les premiers, hein, d'ailleurs, l'entreprise SNCF, on va permettre aux salariés, après la crise, hein, de choisir 1 à 2 jours de télétravail par semaine, pour ceux qui peuvent le faire, les emplois tertiaires, bien sûr. Ouais. Donc je pense que ce comportement-là, dans les entreprises, va perdurer. S'il y a 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, ben c'est autant de mobilité domicile-travail en moins. Et on voit l'initiative qui est prise en Nouvelle-Aquitaine, c'est une bonne initiative. C'est pas normal d'avoir un abonnement mensuel comme si je me déplaçais tous les jours, alors je le fais pas. D'où l'idée d'avoir un abonnement ajusté qui permet de tenir compte du fait que vous n'allez plus au travail que 2 ou 3 jours par semaine, avec un coût inférieur. Donc ça, je pense qu'on le verra. Ce qu'on verra aussi, c'est les villes moyennes. On voit beaucoup que les grandes mégapoles, la vie est dure. Hein. Quand vous êtes en région parisienne, c'est pas évident. Vous avez des petits appartements, la qualité de vie est pas terrible, c'est cher. Oui. On voit que les gens ont eu besoin de s'installer dans une maison. Et je pense qu'on aura de plus en plus de gens qui font le choix à budget équivalent d'aller se loger à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de Paris.
Ça, vous l'observez déjà?
On l'observe
déjà. Par exemple,
déjà.
Sur des lignes comme Chartres, Évreux, etc.
Ouais. Poitiers, Reims, Le Mans. Ce sont des comportements qui existaient, mais qui étaient peu nombreux. Ouais. Et on voit qu'ils sont en train de se multiplier.
Donc vous allez renforcer l'offre?
On renforcera l'offre et on aura certainement, là encore, des produits tarifaires adaptés à ce type de comportement. Voilà, on perdra en fréquence, on gagnera en distance. Donc, au fond, en termes d'activité, ça sera à peu près équivalent. Voilà. Mais c'est vrai que là, le comportement des Français aura changé. On a parlé du tourisme, là encore. J'espère que les Français, peut-être, feront le choix de rester davantage en France. Et là, le train, c'est formidable. Hein. Il n'y a pas de bouchons, vous allez partout, TGV, correspondance TER, vous pouvez aller partout en France. On aura là encore des produits adaptés. On va d'ailleurs adopter notre gamme tarifaire. Hein. Ça, c'est l'idée sur laquelle on travaille.
C'est-à-dire ?
Mais on veut une gamme tarifaire, notamment TGV, plus simple, plus accessible, c'est-à-dire moins cher, et on veut plus lisible. Et je voudrais que ces éléments-là...
Ça, c'est effectivement un sujet, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de dire avec précision quel est le prix d'un aller-retour Lyon. Ça dépend du moment, de la météo, de l'âge que vous avez, je ne sais pas.
Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est trop compliqué. Et je voudrais que les choses soient plus simples. Donc, les équipes marketing y travaillent, je peux vous dire, en ce moment. Moi, je voudrais que ces premiers éléments de modernisation et de simplification interviennent pour l'été prochain, hein, l'été 2021, donc c'est assez rapide. Donc, on va arriver avec une gamme tarifaire qui va donner envie de prendre le train, hein, je pense, qui va nous aider à reconquérir l'ensemble de notre clientèle. Et on va beaucoup jouer sur l'argument écologique aussi.
Donc, vous allez baisser les prix?
On va ajuster les prix, quelque part dans un mouvement d'ajustement.
Ouais, ajuster baisser ou ajuster
pas
à la hausse?
Non, pas à la hausse.
Ajuster baisser.
Ouais. Je pense que les gens trouveront plus facilement ce qu'on appelle des petits prix. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y avait un gros défaut dans nos gammes tarifaires, c'est que ceux qui ne pouvaient pas réserver à l'avance, et ils sont de plus en plus nombreux de ce côté-là, c'est un des enseignements de la crise aussi, les gens n'anticipent plus leur déplacement, ils attendent.
Puis ils ne savent pas.
Ils ne savent pas. Ouais. Donc ils se décident 2 jours, 3 jours, la veille. Donc là, forcément, dans notre système tarifaire d'aujourd'hui, les prix les plus bas ont disparu. Donc si vous arrivez au dernier moment, vous n'avez pris que les prix les plus élevés de la gamme. Donc il faut qu'on change ça. Ne me demandez pas comment, hein, les équipes marketing y travaillent. Mais voilà, en tout cas, les directives que j'ai données pour qu'on soit beaucoup plus accessible. Deuxièmement, l'argument écologique. Je crois que les jeunes générations y sont très sensibles,
oui.
Franchement. Et les chiffres sont très spectaculaires. Moi-même, je les ai redécouverts. Un voyage en TGV pollue 50 fois moins qu'un voyage seul dans sa voiture. Et 80 fois moins que l'avion. Le ratio est incroyable.
Bon, c'est parce que les infrastructures sont construites. Si on intègre les émissions carbone de la construction d'une ligne, on arrive à un autre...
Les routes, c'est pareil. Hein, si vous intégrez les coûts des autoroutes, etc. Et on n'a jamais fait le calcul de la route. Le calcul complet. Si vous intégrez les accidents, il y a quand même 3 000 morts par an, il y a des blessés, tous les coûts sociaux, les fameux coûts externes, hein, si vous les intégriez, je pense que la route est un mode qui coûte cher à la société en général. Voilà, donc là-dessus, on peut avoir le débat, je pense qu'on est assez confortable. Mais l'argument écologique est incroyable, les lignes existent, les lignes sont là, les TGV sont là, donc prendre le train, c'est polluer beaucoup moins que les autres modes. Alors c'est sûr que ça ne suffit pas, il faut aussi avoir l'argument de l'accessibilité prix bien sûr, hein. Mais en combinant des prix attractifs et ce sentiment écologique qui est en train de monter dans les jeunes générations, mais du coup c'est capillaire, hein. Les parents des jeunes aussi commencent à réfléchir, je suis convaincu que là on a les ingrédients pour conquérir beaucoup de clients dans les mois et les années qui viennent.
Je reviens sur le business demain après la crise, vous ne redoutez pas non pas la disparition, mais en tout cas la baisse du trafic business, parce que au fond, avec la découverte des réunions Zoom, votre concurrent, bah, c'est plus seulement l'avion ou la route, c'est la 5G.
Oui, ça c'est vrai. On a été disruptés nous aussi. Hein. On parle de disruption. Oui. Nous, ce qui nous a disruptés, c'est pas les autres modes de transport. C'est pas tellement la 5G, quelques moyens, mais c'est Teams, Zoom, etc.
C'est ça.
Mais bien sûr. Oui. Là, on a été disruptés parce que tout à coup, notamment dans le milieu des affaires, on s'est rendu compte qu'on pouvait voir ses équipes à distance, pouvait voir ses clients,
et que finalement,
sans avoir à se déplacer.
Ça marchait pas tout le temps. D'ailleurs, faut quand même aller les voir de temps en temps, mais. Mais une fois sur deux ou une fois sur trois, c'est très efficace.
Exactement. Ça peut réduire la fréquence, effectivement, des déplacements d'affaires. Je crois qu'il faut dire les choses.
C'était ces déplacements où vous aviez les marges les plus élevées ?
Eh oui, en plus. Donc voilà, c'est ça qui nous remplissait nos premières classes. Et c'est là où on avait peut-être le moins de réduction parce que les gens étaient attentifs au service. Hein. C'est là où on avait aussi le service le plus fourni sur ces billets-là. Bon, là, comment faire ? Bon, d'abord, se dire il y aura une baisse structurelle, mais elle ne sera pas massive. Parce qu'au bout d'un moment... Si vous n'allez pas voir vos clients, si vos concurrents le font, vous allez commencer à réfléchir. Donc, je pense que. Moi, mon estimation, c'est qu'on va perdre, ce qui est quand même significatif, 10 à 15%.
Pas plus que ça.
Je ne pense pas. Pas davantage. Parce que je vous dis qu'au bout d'un moment, il faut quand même se voir. Et même vos équipes.
Hein. Les équipes aussi.
Les équipes
bien
que
sûr.
Vous ne connaissez pas, par exemple, au début, vous les connaissez, mais par les turnovers, vous ne les connaissez pas. Comment vous ne pouvez pas manager à distance tout le temps ? Donc, rien ne vaut quand même le contact physique pour souder les équipes. Et rien ne vaut le contact physique pour être sûr d'avoir une bonne relation avec son client. Voilà. Donc, je pense que la mobilité physique reviendra dans le segment affaires avec une baisse de 10 à 15%. La réponse à ça, c'est aussi l'accélération sur privé loisirs. Je vous le redis, ça ne se sait pas. Notre part de marché du train, ce n'est que 10%. C'est la voiture qui transporte le plus de gens. 85% des déplacements se font en voiture. On veut grignoter quelque part modal. Si on arrive de mode de transport, hein. Si on arrive à grignoter 4 ou 5 points sur la voiture, si vous les convertissez, c'est nous 30 ou 40% de trafic en plus. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se mettre. On va vraiment se mettre dans la tête qu'il est possible d'aller grignoter 4 ou 5 points de report modal, de report du mode voiture vers le mode train. Exactement.
Vous évoquiez tout à l'heure le fret. Alors c'est vrai que depuis que je suis journaliste économique, on parle... de la nécessité de faire rouler les camions sur des trains, en tout cas transporter les marchandises par le train. Et puis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez bon espoir que, justement, à la faveur de cette prise de conscience écologique qui fait qu'on est quand même beaucoup plus attentif aux questions climatiques, aux émissions carbone, et est-ce que vous êtes est-ce que vous espérez que, à la fois, les chargeurs, ceux qui vous confient la marchandise, et puis le transporteur que vous êtes, vont réussir, enfin, à utiliser le train pour transporter les marchandises en France.
Oui, moi, je suis confiant, mais il n'y a pas que moi qui suis confiant. Il y a un alignement des planètes incroyable. L'Union européenne, dans le cadre du Green Deal, a décidé un grand plan de financement d'infrastructures ferroviaires sur tout le continent. Alors, vous savez comment ça marche. L'Union européenne ne paie pas tout, mais si un État fait un bout du chemin, l'Union européenne fait le reste. Et nous, on a besoin d'ailleurs de voies ferrées. Hein. On a besoin de voies ferrées nouvelles si on veut transporter plus de trains de fret. Notre réseau, il est quasiment saturé sur les grands axes. On a besoin d'infrastructures nouvelles pour les grands contournements des grandes agglomérations. Les grands flux de fret qui passent par la France sont nord-sud, de l'Europe du Nord, des grands ports vers la France, parfois vers l'Espagne ou vers l'Italie. Dans les trois grands contournements dont on a besoin, c'est l'espèce de périphérique ferroviaire, hein, c'est Lille, la région parisienne et la région lyonnaise. Ouais. Voilà, c'est une dizaine de milliards, alors pas en un an, mais sur une dizaine d'années, aidée par l'Europe. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça nous permettrait de multiplier par deux le nombre de trains et donc de multiplier par deux notre part modale. Aujourd'hui, la part du train en France est faible. Elle est à 9%, alors que la moyenne européenne est à 18%.
La route, c'est moins cher et c'est plus pratique.
Oui, exactement. C'est
quand quand on parle de camions, hein, c'est-à-dire de transport de marchandises.
Bien sûr. Il y a quand même des pays qui font mieux. D'abord, en moyenne, la moyenne européenne, c'est 18%. On est vraiment en dessous de la moyenne. Nous, hein.
C'est la faute de la SNCF.
Ah, pas du tout. C'est pas du tout la faute à la SNCF. C'est parce qu'en France, mais ça vient de changer, on n'adoptait pas des systèmes qui incitaient les entreprises à prendre le train. Dans le plan de relance, on en a parlé tout à l'heure pour le réseau, il y a une autre composante qui est très forte. C'est justement pour la première fois en France, il va y avoir un système d'aide pour encourager les entreprises à mettre leurs marchandises dans des wagons, ce qu'on appelle les wagons isolés, hein, le wagon tout seul, et moins dans les camions. On voit bien qu'il faut aider. Alors là, c'est un choix politique. Hein, on pourrait très bien décider de ne pas le faire. Mais si on ne le fait pas, le camion inexorablement va battre le wagon. À tonnage
c'est ce qui
équivalent.
S'est passé dans les 30 dernières années.
La tendance lourde, elle va vers ça. Donc, s'il n'y a pas intervention de l'État, le camion finira par transporter quasiment tout. Or, attention, il y a des matières dangereuses, il y a des matières chimiques. Je pense que c'est l'intérêt général, qui est quand même des marchandises qui restent transportées par les trains et pas par les camions. C'est aussi l'intérêt général de ne pas congestionner toutes nos routes et nos autoroutes. C'est la pollution, c'est les particules. Je pense que oui, il faut une politique, pour le coup, interventionniste au niveau européen, au niveau français, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de marchandises dans les trains. Les premières décisions sont prises. J'espère maintenant qu'elles seront amplifiées, notamment sur l'impulsion de l'Union européenne.
Vous avez bon espoir. Donc, on arrive enfin à une inflexion là-dessus.
J'ai bon espoir. Moi, le plan sur lequel je suis, c'est que les 9% d'aujourd'hui deviennent 18%, que nous aussi, on fasse x2. Alors, on sera peut-être toujours un peu décalé par rapport à la moyenne européenne, mais si on arrivait à faire x2 en France, ça aurait de l'allure. C'est ce que souhaitent d'ailleurs les Français. On l'a vu dans la Convention citoyenne, hein, les Français l'ont dit. Ils ont bien compris que le ferroviaire, c'est la solution en matière de mobilité durable pour les voyageurs, mais aussi surtout pour les marchandises. Il faut vraiment qu'il y ait plus de marchandises dans les trains, un petit peu moins dans les camions, qui restera le monde dominant. D'ailleurs, notre discours n'est pas un discours anti-camion. On a besoin de camions, par exemple, pour transporter les containers. Ils peuvent faire leur trajet principal en train de Hambourg ou de Rotterdam jusqu'à Lyon. Mais quand il faut desservir au départ de Lyon, la Savoie ou l'Ardèche, il faudra un camion. Voilà, c'est bien une vision de complémentarité des modes. Il faudrait quand même que le train transporte un peu plus de marchandises.
Cette semaine, vous l'évoquiez, on fêtait les 40 ans d'un record de vitesse du TGV. C'est Johan Engen qui nous rappelle cette épopée.
Ces cheminots ont sorti leur plus belle blouse d'époque pour monter à bord d'un train historique. Celui-là même qui battait le record mondial de vitesse il y a tout juste 40 ans.
Ah oui, c'est une grosse émotion pour nous.
Une émotion partagée ce matin par tous ces salariés de la SNCF. Car cette machine, peinte en orange au début de sa carrière, n'avait plus roulé depuis sa mise au garage, il y a 3 ans.
Ça nous fascine, ça nous a fait rêver enfant, et puis on a eu la chance de faire le métier dont on rêvait petit. Donc être ici, c'est vraiment la consécration.
L'histoire commence en 1981.
372 km/h. 373.
Pour les 14, débuts du TGV, 15. La SNCF voulait un record.
Nous avons atteint 380 km/h sur la rame.
À l'époque, ce record, le monde entier nous l'envie. Chinois, Allemands, Japonais, tous s'y essayent et seuls les Allemands y arrivent en 1988. 406 km/h. Piqué au vif, la SNCF répond 2 ans plus tard, 515 km/h. Puis en 2007, 574 km/h. Un record sur rail qui tient toujours, mais désormais les objectifs ne sont plus les mêmes.
Aujourd'hui, on se fixe des défis toujours très importants, mais adaptés au monde d'aujourd'hui. Utiliser les capteurs pour aller chercher un zéro défaut sur nos trains, et puis accroître toujours la capacité de 600 à 740 places, ce qui est complètement inédit.
La SNCF sortira ce nouveau train en 2024, mais pour ces cheminots qui continuent de bichonner cette rame à la retraite, il ne faut surtout pas oublier la vieille mécanique.
Il n'y a pas d'école qui apprend à faire fonctionner un train. On apprend tout ici, en fait. Donc il faut bien qu'on parte d'un... Il faut qu'on ait un point de départ. Et il est là, le point de départ.
Un savoir-faire transmis de génération en génération afin de continuer à battre demain d'autres records.
Est-ce que c'est toujours l'obsession, la vitesse, dans un monde qui est justement de plus en plus soucieux de sa consommation d'énergie ?
Non, c'est plus l'obsession, c'est plus la vitesse. On est maintenant dans des vitesses commerciales de 320 km/h. Là, c'est des records, donc on va au maximum de ce qu'on peut faire. Ouais. En vitesse commerciale, on en a 320, c'est une Formule 1 quand même. Hein. On fait rouler tous les jours des centaines de TGV à la vitesse de Formule 1. Le client à l'intérieur ne ressent rien, il n'y a rien qui bouge. Voilà, je pense que c'est très bien. Si on voulait aller encore plus vite, on pourrait. Techniquement, on voit qu'on pourrait. On consommerait beaucoup plus de carburant, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'électricité. En fait, pour gagner 10 ou 20 minutes, pour aller au Strasbourg ou pour aller à Bordeaux, ça vaut pas le coup. Voilà, je pense qu'il faut rester raisonnable. Je pense que c'est un bel optimum. Le 320 km/h que nous faisons rouler tous les jours me paraît une vitesse intéressante. Comme on le dit maintenant, où on va mettre l'intelligence technologique, c'est sur la maintenance prédictive. Vous parlez de la 5G qui pouvait être un danger, c'est aussi une opportunité. L'idée, c'est qu'on mette des capteurs partout. Et ça a été évoqué dans le reportage, sur tous les trains, sur tous les éléments d'infrastructure aussi, pour faire en sorte de sentir un organe défaillant pour intervenir avant même qu'il tombe en panne. Moi, je crois que dans les 10 ans qui viennent, peut-être même avant, avec tous les capteurs qu'on mettra, c'est énormément de données, c'est pour ça qu'il faut la 5G, il faut capter des milliers de données tous les jours et les analyser, on fera en sorte que le train ne tombe plus jamais en panne. Voilà, fiabilité totale, c'est ça pour moi, et c'est ça en fait que les clients demandent. Ils ne demandent plus qu'on aille plus vite, ils demandent qu'il ne soit quasiment plus possible de tomber en panne, c'est ce qu'on fera. Je crois que c'est ça qui est l'attente des Français maintenant.
Est-ce qu'on va voir bientôt des trains sur les réseaux français qui ne sont pas de la SNCF, mais qui sont... allemand, italien ou français, mais privé. Alors, on en voit quelques-uns, vous allez me dire, mais c'est encore très, très marginal. Ce mouvement va-t-il s'amplifier ?
Eh oui, vous parlez de la concurrence, là.
Oui.
Elle arrive, la concurrence, mais dans le monde voyageur. Je pense que cette année, on va avoir des trains qui ne seront pas la SNCF. Et il y a deux manières d'arriver pour la concurrence. Il y a les appels d'offres conduits par les régions, hein, et la région Sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur va être la première. Elle va attribuer deux lots de trains régionaux à l'été de cette année 2021. On verra bien qu'ils attribuent, j'espère que ça sera la SNCF, on verra bien.
Vous soumissionnez comme d'autres.
On soumissionne comme d'autres et on sait qu'il y a plusieurs autres opérateurs, français ou étrangers, qui ont soumissionné. Donc on va être confronté à des concurrents. Et puis l'autre manière d'arriver sur la concurrence, c'est plutôt contre les TGV français de la SNCF, c'est comme dans l'aérien, c'est des compagnies qui ouvrent des lignes, hein, en concurrence directe sur la longue distance ferroviaire, sur la grande vitesse. J'ai entendu parler des Italiens, j'ai entendu parler peut-être des Espagnols, voilà, qui pourraient venir dès cette année. Là, le client aura le choix, comme entre deux avions, hein, entre les TGV de la SNCF et les trains d'autres compagnies. Voilà, oui,
vous êtes prêt pour ça ? Parce que la difficulté, c'est que les opérateurs privés qui viennent vous faire concurrence, ils le font plutôt sur les lignes ultra rentables. Bon, vous, il faudra quand même que vous mainteniez l'ensemble des liaisons.
Oui, alors il y a deux questions dans votre question. D'abord, est-ce qu'on est prêt ? Oui. Alors on est humble, hein, on sait très bien que c'est un choc, hein, la concurrence, hein, c'est pas anodin, quand vous n'avez pas connu, tout à coup vous devez l'affronter, mais on est déterminé, on a des atouts, on a des points forts, on est capable de se remettre en question, arriver avec des idées neuves, voilà, on va à la compétition pour essayer de la gagner, hein, bien évidemment, c'est l'état d'esprit qui nous habite. La deuxième question que vous posez, c'est sur le sujet des péréquations, c'est un vrai sujet ça. Le modèle d'avant, il y avait une formidable péréquation nationale en France, les lignes TGV qui gagnaient de l'argent, elle payait pour ligne TGV qui n'en gagnait pas. Et il y en avait une sur deux, d'ailleurs, qui n'en gagnait pas. Ça ne se savait pas.
En TGV.
En train classique, il n'y en avait quasiment pas qui gagnaient de l'argent. Donc les lignes TGV qui gagnaient, comme on est une entreprise publique, ce n'est pas gênant, on acceptait bien volontiers de soutenir les lignes qui n'en gagnaient pas. C'était notre mission d'aller partout, dans tous les territoires. Voilà, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Quand la concurrence arrive, ce système est questionné, parce que la concurrence, elle va venir écrémer nos lignes les plus rentables. Je pense que je serais étonné que nos concurrents ne nous attaquent pas sur Lyon-Paris, qui est notre ligne la plus rentable. Et d'ailleurs, mécaniquement, on va être obligé de rendre des horaires. On va être obligé d'annuler des trains de la SNCF pour faire de la place aux trains de la concurrence. Donc on va perdre des parts de marché de manière mécanique, sans parler de la guerre des prix, qui est très bonne pour les passagers, et qui va effectivement éroder nos marges. À ce moment-là, il faut s'interroger que devient la mission de service public sur les autres lignes. Voilà, c'est un débat qui n'est pas encore complètement apparu, mais qui va commencer à monter. Il faudra que la SNCF soit, j'allais dire, sécurisée sur les missions de service public qu'elle fait à côté des lignes où elle est en concurrence frontale.
Sécurisée, ça veut dire que les régions payent, que l'État paye pour financer en partie ces lignes déficitaires que vous n'aurez plus les moyens d'entretenir.
Il faudra y réfléchir. Il y a plusieurs mécanismes possibles. Il faudra y réfléchir. Est-ce qu'on va avec des contrats de service public ? Est-ce qu'on va aussi faire... On peut jouer aussi sur l'ajustement du coût des péages, hein, en renforçant les péages, c'est-à-dire ce que payent les compagnies.
C'est ce que payent les compagnies.
Le coût de passage, voilà. Quand une compagnie ferroviaire roule sur le réseau ferré, elle, comme sur une autoroute, en quelque sorte, elle paie un péage à SNCF Réseau. Voilà. Nous aussi, d'ailleurs.
C'est-à-dire à vous.
Ouais. À nous, aux collègues de réseau, et TGV paye de la même manière. Tout ça est suivi par une autorité de régulation et parfaitement transparent. On peut se demander si les lignes les plus contributrices ne devraient pas payer davantage en matière de péage, ce qui permettrait de les baisser sur les lignes d'aménagement du territoire. Si un tel système était en place, ça nous permettrait à nous de poursuivre la desserte complète des lignes moins bénéficiaires.
Juste en trois mots, d'ici 5 ans, vous imaginez que la part de marché de la SNCF, elle évoluera, quoi, ça sera, vous aurez 70%, 80% au lieu de 100 aujourd'hui ou quasiment ?
Je pense d'ici 5 ans, on n'en sera peut-être pas encore à 30%. Mais d'ici 10, 15 ans, oui, il n'est pas impossible qu'on ait perdu 30% de part de marché. On va tout faire pour les gagner. Hein. Nous, on y va, je vous dis, pour gagner. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, qui est un peu plus avancée que nous, l'Allemagne a gardé à peu près 70% de part de marché sur les trains régionaux. Donc on peut dire, après tout, qu'à la SNCF, on n'est pas plus bête que nos collègues allemands et qu'on réussira à conserver la confiance donc, de nombreux clients régionaux.
Dernière question, Jean-Pierre Farandou. Quel est le meilleur livre que vous avez lu récemment ?
Écoutez, j'en ai lu beaucoup parce que j'ai pas mal pris le train et j'adore lire. Hein, donc j'en ai lu pas mal. J'ai lu avec beaucoup d'attention et j'ai été touché par ce livre, Famille Agrandée, qui est quand même un beau livre, un livre fort.
De Camille Kouchner.
Ouais, c'est un livre dérangeant. Voilà, c'est un témoignage fort. J'ai lu aussi Yoga, hein, d'Emmanuel Carrère, qui m'a bien plu aussi. C'est son histoire à lui aussi. Je suis en train de lire le livre de Boris Cyrulnik. Je vois que vous allez le recevoir. Voilà.
Adrien va nous en parler dans une seconde.
Je ne l'ai pas terminé, mais il m'intéresse beaucoup parce que c'est un regard très intéressant sociologique sur l'écologie. En fait, l'homme impacte sur son environnement et l'environnement impacte sur l'homme. Je trouve que éclairé par ce livre, c'est un propos formidable. J'adore la lecture. Je pense que c'est important. C'est mon moment d'évasion. Et le train et la lecture, ça marche très bien ensemble. Pour tout vous dire, j'ai réussi à prendre un week-end un peu rallongé pour aller à Pau. 4 heures de train, c'est formidable. J'ai lu un bouquin à l'aller, un bouquin au retour. C'était formidable. Prenez le train et lisez.
Merci à vous, Adrien. Bonsoir.
Bonsoir, François.
Vous voyez que vous aurez un téléspectateur dans quelques minutes.
Je vous invite effectivement à rester avec nous, Jean-Pierre Farandou, parce que si le livre de Boris Cyrulnik vous a intéressé, l'émission à suivre va vous passionner. On recevra à 18h Axel Kahn, généticien. On parlera bien sûr avec lui des mesures prises pour lutter face au Covid. Les nouveaux confinements week-end peuvent-ils marcher? Les vaccins, les traitements? Également, son œil de généticien nous permettra de mieux comprendre certaines mécaniques. À 18h25, on sera en direct de Nice avec Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, l'une des zones précisément concernées par ces nouvelles mesures. On fera le bilan et puis on parlera également des phénomènes de bande, puisque vous le savez, plusieurs adolescents ont trouvé la mort ces derniers jours en France. Et puis 18h40, Boris Cyrulnik, donc le fameux le neuropsychiatre, qui nous parlera, comme vous le disiez à l'instant, effectivement, des liens entre l'homme et son environnement. Ce que cette épidémie, ces pandémies vont changer également à l'avenir pour l'humanité. Et puis à 19h, le duel comme chaque dimanche. Cette fois-ci, ce sera Luc Ferry face à Ségolène Royal. Voilà pour le programme.
C'est donc en toute franchise et c'est dans un instant.
Exactement.
Merci encore Jean-Pierre Farandou, c'était très intéressant. Merci de plonger avec vous dans l'univers ferroviaire et celui des cheminots que vous connaissez mieux que quiconque. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr dimanche prochain sur LCI en direct à 18h. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.
Profitez de votre